Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 41e soirée d'éthique publique, la 6e de cette année universitaire des facultés Jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, ceux qui viennent pour la première fois, malgré les intempéries, donc vraiment bravo pour cette motivation. Bienvenue à nos amis aussi, c'est maintenant un heureux rendez-vous qui sont reliés par l'image et le son à Bordeaux, à l'église Notre-Dame-des-Anges, à Lyon, à l'espace Saint-Ignace et à Poitiers. Avant d'entrer dans la présentation de notre thème, je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés sur l'évolution de la laïcité dans notre pays. Où en est la laïcité à la française? Avec le politologue Philippe Portier et le philosophe Guy Coq. Le mois prochain, le mardi 2 avril, nous allons retrouver le rythme habituel du premier mardi de chaque mois que nous avions laissé en raison des vacances. Eh bien, nous nous pencherons sur la place de l'école catholique dans notre pays et son rôle particulier dans l'enjeu de l'éducation dans notre pays. Quelle est la contribution spécifique de l'enseignement catholique pour le devenir de l'école en France? Ce sera une soirée en partenariat avec la revue Projet, éditée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, qui est animé par les Jésuites, et dont le numéro du mois d'avril aura pour titre « École catholique, école publique, point d'interrogation ». Et pour nous aider à réfléchir, nous accueillerons notamment M. Éric Delabarre, le secrétaire général de l'enseignement catholique, donc mardi 2 avril à 19h15. Ce soir, c'est un dossier pas moins important pour l'avenir de notre société dont nous allons parler, puisqu'il s'agit de la médecine. Une soirée organisée en collaboration avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Je suis heureux de saluer ici, à mes côtés, le père Bruno Sainto, qui en est le responsable. En France, nous le savons, la médecine est organisée et régulée pour assurer un service public, en termes de disponibilité, en termes d'accessibilité, de permanence des soins, de gestion des urgences, mais aussi de solidarité financière, de politique de santé publique et de contrôle public, et on pourrait ajouter bien d'autres éléments. Cependant, plusieurs indicateurs montrent que ce service public est actuellement mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve parmi certaines difficultés que l'on peut mettre en valeur, c'est celle d'assurer la permanence des soins, celle de compenser les inégalités de santé, la question des déserts médicaux dans certaines parties du territoire national, l'encombrement des urgences, la question de la concurrence entre le public et privé, et là encore on pourrait ajouter bien d'autres thèmes. Alors sans doute n'est-il pas inutile de nous interroger sur cette notion de service public de la médecine. Pourquoi et comment la médecine est-elle devenue un service public? Doit-elle et peut-elle continuer à le faire? Quelles évolutions sociales, économiques, quelle solidarité, quel rapport public-privé faut-il préconiser pour organiser l'avenir de la médecine dans notre pays? Quelles en sont les implications pour nous tous, pour tous les citoyens et pour la formation initiale et continue des médecins? Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, nous sommes heureux de profiter de l'expertise de nos invités ce soir et je vais laisser la parole au père Bruno Sainto qui va avoir la lourde charge de les présenter.
C'est une lourde charge et une heureuse charge. Je vais vous passer la parole à chacun, donc vous aurez 20 minutes comme convenu, 20 minutes chacun. Nous allons commencer par le professeur Didier Houssin. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes professeur de chirurgie à la faculté de médecine Paris-Descartes. Vous n'avez pas perdu, mais vous avez consacré beaucoup de temps aussi aux problématiques de politique de santé publique. Vous êtes ancien directeur de la politique médicale à l'assistance publique hôpitaux de Paris, 2003 à 2005. Vous êtes aussi ancien directeur général de la santé de mars 2005 à 2011. Et vous êtes actuellement président du conseil de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous avez publié de nombreux ouvrages, articles, dont certains articulent les techniques médicales et les questions de santé publique, comme par exemple la question des greffes et des xénogreffes. Vous avez publié en 2003 un livre intitulé « Maintenant ou trop tard » sur le phénomène de l'urgence. Alors, c'est un ouvrage qui réfléchit à la place de l'urgence à partir d'une longue expérience de chirurgie, et plus particulièrement de greffe du foie. Alors merci de conjoindre, on pourrait dire, ces deux expériences et deux capacités de réflexion, une expérience pratique et aussi une réflexion sur l'évolution de la médecine et sur l'évolution de sa place dans la société. Alors merci de nous partager ces compétences, ces doubles compétences. Merci.
Merci beaucoup de votre accueil. Alors je vous remercie de cette introduction. Je voudrais remercier aussi mes collègues Pierre Corvol et Joël Ménard que je vois devant là et qui m'ont sollicité. Je suis très heureux aussi de revoir le père Verspiren, que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Ça me fait plaisir. Alors, en fait, lors de l'invitation initiale que j'avais reçue à participer à cette séance, le thème était « La santé, bien publique ?» d'interrogation. Et puis, le thème du débat de ce soir est « La médecine doit-elle et peut-elle rester un service public ?» Le glissement est net, et il touche, à mon avis, le cœur du sujet. Nous étions au départ sur la santé, sans philosopher sur la santé elle-même. Je vous renvoie par exemple à l'ouvrage de Gadamer sur la philosophie de la santé, sur sa définition, sa nature. Il est rarement contesté qu'il s'agit d'un bien, même si la conscience n'en est pas toujours constante, n'en est pas constante ni toujours très vive. Il y a un proverbe corse qui dit par exemple « qui a la santé est riche et il ne le sait pas ». La question posée était alors celle de la santé en tant que bien public, donc de la santé publique, de la santé de la population, de la santé des populations. La question posée était celle des déterminants de la santé des populations, des inégalités, vous les avez mentionnées, donc de la promotion, de l'éducation à la santé, de l'accès à la prévention et aux soins, bref, et des acteurs de santé. Chacun est acteur de santé, mais il y a aussi des acteurs professionnels de la santé, concernant les produits de santé, par exemple tous ceux qui fabriquent des médicaments, mais aussi les acteurs des services de santé. Et c'est ici que le glissement s'opère, puisque en passant du thème « la santé, bien publique » au thème « la médecine, etc. », je dirais comme d'habitude, on passe insensiblement d'une problématique centrée sur la santé des populations à une approche située, centrée sur le rôle d'une catégorie de professionnels de santé, il y en a plusieurs, les médecins en l'occurrence, et sur le service qu'ils offrent, les soins de santé préventifs ou curatifs. Alors, il me semble que la question qui est posée constitue donc un sous-ensemble du sujet qui était envisagé initialement. Il peut être abordé de différentes manières selon ce qu'on entend par médecine. S'agit-il d'abord de la médecine hospitalière ou de la médecine ambulatoire? Si l'on part de ce que l'on entend par service public et des évolutions de ce concept, on peut considérer par exemple que le service public hospitalier appartient très nettement à la partie non régalienne et non monopolistique du service public, s'appuyant sur la fonction publique hospitalière et sur les principes directeurs du service public de continuité, de mutabilité, d'égalité et de laïcité. Le service public hospitalier est clairement une forme marchande, mais où le bénéficiaire ne paye pas lui-même. C'est une forme évidente du service public. Pour la médecine libérale, la situation est beaucoup moins nette. Elle a des caractéristiques qui, si on y combine les principes du code de déontologie des médecins, s'apparentent en France à un service public. Continuité, l'accent, vous l'avez dit, mis sur la permanence des soins, égalité, mais qu'en est-il de l'égalité pour les patients titulaires de la CMU et s'agissant des dépassements d'honoraires? En revanche, d'autres aspects touchant à l'égalité d'accès ou à la continuité s'en écartent. Vous avez évoqué la question des déserts médicaux. Alors, je vous propose donc d'aborder le sujet non pas sous l'angle de ce qu'est le service public, mais à partir des attentes des médecins d'un côté, des attentes du public et des pouvoirs publics vis-à-vis des médecins d'un autre côté. En limitant le sujet aux médecins qui ne font pas d'évidence partie du service public, je veux parler des médecins du secteur libéral. Alors, qu'on appelle médecine libérale, médecine de ville ou de premier recours ou médecine ambulatoire, ce secteur du système de santé est essentiel. C'est celui de la proximité, de la relation de longue durée. Il est le premier échelon de l'accès aux soins et il peut déterminer grandement la santé d'une population. Et il faut reconnaître, la situation de ce secteur est difficile. Cette médecine est en crise et les attentes des médecins du secteur libéral sont aujourd'hui très grandes. Longtemps reconnu pour le sacrifice qu'il faisait de sa qualité de vie, le médecin a vu son image s'affaiblir dans le champ social face aux progrès techniques, à la multiplication des nécessités d'examens complémentaires, à la complexification de la thérapeutique, à la prolifération des spécialités, au développement du droit des malades et de leur attente d'immédiateté, d'information, de coordination, de permanence, de continuité. Ce médecin, dont la formation a souvent et est encore un peu décalée par rapport au métier qu'il va exercer, qui est de plus en plus souvent une femme, a de manière croissante le sentiment d'être devenu un prestataire de service soumis à de fortes incitations en matière de prescription, des recommandations, le rôle des leaders d'opinion, le rôle des laboratoires pharmaceutiques, et devant consacrer de plus en plus de temps aux tâches dites administratives, les certificats, les grilles d'état des patients qu'on souhaite accepter dans une maison de soins de longue durée, par exemple, de tâches également liées à l'usage de l'ordinateur. Je me rappelle d'un dessin qui avait été publié dans le New Yorker, où on voyait une petite dame âgée devant un grand bureau avec un monsieur, un médecin qui était à côté de son ordinateur, et le médecin lui dit « Chère madame, j'ai consulté Google, vous n'avez rien ». Donc cette crise est profonde, elle est accentuée par l'isolement, parfois la désertification géographique, mais aussi désertification disciplinaire, par la crainte de la violence dans certaines zones et le sentiment de la paupérisation. Cette crise aussi trouve des racines dans une crainte beaucoup plus ancienne, celle d'être abaissé à nouveau au rang de ceux qui furent, avant d'être reconnus comme médecins, des officiers de santé. Le personnage de Charles Bovary, de ce point de vue-là, est tout à fait exemplaire. Alors que à de nombreux points de vue, le médecin est donc un acteur public, il y a un tarif administré, il y a un remboursement par l'assurance maladie, il y a un tiers payant. Beaucoup de médecins se disent et se revendiquent du secteur privé et ils s'accrochent pour cela à trois dimensions principales. La liberté d'installation, c'est ce qui est en question avec les déserts médicaux. La liberté de prescription, c'est ce qui est en question avec les recommandations, avec toute une série de contraintes qui peuvent s'exercer sur la prescription, et le dépassement d'honoraires dont j'ai déjà dit un mot. Et sur ces trois aspects de leur liberté, les médecins se heurtent à une forte volonté d'encadrement. Alors maintenant, je vais me situer d'un autre point de vue, le point de vue des malades ou le point de vue de la population. Dans l'ensemble, les malades ou la population gardent un grand niveau de confiance, ont grandement confiance dans les médecins par rapport à d'autres professionnels, par exemple, par rapport aux politiques, aux journalistes, aux administratifs que je fus il y a peu. La confiance des malades dans les médecins est beaucoup plus importante. Les malades, quant à eux, sont souvent déçus et inquiets. Dans une enquête récente, lorsque j'étais à la Direction générale de la Santé, il était frappant de constater que les usagers étaient déçus d'une certaine absence d'humanité. Il est bien possible que le passage, d'ailleurs, du paternalisme d'antan à l'approche contractuelle actuelle y soit un petit peu pour quelque chose. L'efficacité diagnostique et thérapeutique que reconnaissent les malades ne suffit pas à compenser cette déception. Pourtant, un effort a été fait pour développer les sciences sociales et humaines et l'éthique dans les études médicales. Mais d'évidence, ça ne suffit pas. Même quand les malades comprennent la crise que traversent les médecins, ils n'en sont pas moins déçus et inquiets, car ils ressentent une marchandisation croissante de la médecine, notamment du fait des dépassements d'honoraires. Ils ressentent aussi les défauts de permanence, de continuité, de coordination, de coopération entre les professionnels de santé. L'action des pouvoirs publics pour renforcer la qualité et la sécurité des soins, tout ce que j'ai indiqué en termes de recommandations de bonnes pratiques, d'incitation au signalement des événements indésirables et la maîtrise des dépenses de santé, tout ceci s'ajoute du point de vue des malades également pour leur faire comprendre que les médecins sont dans une situation parfois un peu difficile. Les approches qui visent à permettre aux médecins de se situer en comparant leurs pratiques n'atténuent pas non plus le sentiment de pression qui est ressenti par les médecins et l'insatisfaction des malades. Dans ce contexte, il est frappant de constater le développement des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. C'est important parce que c'est une manière de faire de la médecine qui aujourd'hui devrait faire l'objet d'une beaucoup plus grande attention. Elles attirent de très nombreux malades, souvent pas très malades, qui trouvent chez ces patients, chez praticiens, l'humanité, l'écoute, la main, le temps, l'approche globale qu'ils attendent. Les malades s'adressant à ces pratiques et à ces praticiens sont prêts à payer Et bien sûr, ces pratiques ne sont pas accessibles à tous. En général, peu dangereuses, sauf quelques exceptions, elles n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Qu'à cela ne tienne, le malade est souvent prêt à échanger l'humanité pour l'efficacité. De façon naturelle, ces praticiens attirent aussi de nombreux médecins qui semblent prêts, eux aussi, à troquer ce qu'on appelle l'evidence-based medicine contre telle ou telle de ces pratiques, source de plus de reconnaissance, de revenus et de qualité de vie. Les pouvoirs publics, quant à eux, abordent le sujet en étant au milieu d'un champ de force. D'un côté, les associations de malades qui réclament l'égalité d'accès aux soins, des honoraires maîtrisés, un niveau élevé de qualité et de sécurité des soins, les élus locaux qui se plaignent de la désertification, des dépassements d'honoraires, les syndicats de médecins libéraux dont le poids politique est grand de longue date et qui défendent leur liberté. Face à ces attentes, dans un contexte de déficit de l'assurance maladie, les pouvoirs publics s'efforcent de combler les déserts médicaux par des mesures oscillant entre incitations plus ou moins adaptées et contraintes, de contenir les dépassements d'honoraires et d'encadrer les prescriptions par des recommandations ou des incitations telles que le système CAPI qui a été mis en place par l'assurance maladie. Alors, et je terminerai là-dessus, comment sortir de cette situation difficile? Au fond, je ne sais pas, mais une idée éventuellement. Alors que la médecine libérale va faire face à de très nombreux départs en retraite, au désintérêt des femmes pour la médecine libérale, à la baisse du nombre de nouveaux médecins, dont l'impact d'ailleurs sera très varié selon la région et selon l'environnement rural ou urbain, il me semble qu'une solution peut résider dans une évolution importante des missions des médecins afin de les remettre en position non seulement de répondre à la demande de soins, mais aussi de donner de la santé, de les remettre en posture de pouvoir donner quelque chose qui était la situation dans laquelle ils étaient avant, cette approche un peu sacrificielle dans laquelle ils se donnaient, ils donnaient beaucoup de leur qualité de vie pour leurs malades. Alors ça pourrait se faire à travers des actions de santé publique, notamment de prévention, qui seraient reconnues comme telles, mais aussi valorisant leur rôle de service public, continuité, égalité. Il y a un personnage dans la société dont on pourrait par exemple s'inspirer, c'est le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est un agent, si j'ose dire, double, enfin en tout cas mixte. Le vétérinaire, il est à la fois agent privé, il peut s'occuper des animaux de compagnie par exemple, mais certains sont très attachés à leur rôle, à leur mission de service public pour la protection des troupeaux par exemple. Et si vous voulez, le vétérinaire est à mon avis un bon exemple d'un équilibre qu'on peut essayer de chercher entre pratique libérale et service public. Ça suppose aussi pour les médecins de les informer au mieux sur l'installation, son contexte sanitaire, les missions de santé publique qui pourraient les intéresser, être reconnus, valorisés, financés. Ça suppose sans doute de revoir le mode de rémunération des médecins. Moi, j'avais plaidé quand j'étais à la DGS auprès des syndicats, même si ce n'était pas vraiment trop mon rayon. Mais je leur disais, écoutez, peut-être que il y aurait tout à gagner dans cette affaire, parce que si on réorientait un peu la pratique médicale en donnant plus de poids aux activités de santé publique, en les reconnaissant, en les valorisant, en les finançant, peut-être qu'il y aurait également beaucoup d'évitement de dépenses dans le secteur soins et financièrement ça pourrait peut-être s'équilibrer. Mais moi je ne suis pas un expert financier et donc c'est sûr que mes arguments n'étaient peut-être pas suffisamment convaincants. Enfin, pour terminer, ça suppose aussi de lutter contre l'isolement de nombreux médecins, de favoriser leur intégration dans le système de santé, leur regroupement physique, leur coopération avec d'autres professionnels de santé et l'appui administratif et technologique à leur activité. Et ça suppose enfin de concevoir une formation initiale des médecins plus adaptée à l'expérience ambulatoire. C'est vrai que c'est assez extraordinaire qu'aujourd'hui, un médecin qui va faire une pratique ambulatoire, etc., est formé dans des hôpitaux très spécialisés où finalement le temps qu'il passe à se former véritablement à la pratique qu'il aura est assez limité. Et puis également, bien sûr, une formation continue leur ouvrant plus de perspectives. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Nous vous avons contraint un exercice difficile sur un sujet compliqué. Merci d'avoir fait l'historique du sujet, d'être parti du bien public jusqu'au service public, d'avoir aussi énoncé quelques pistes de solutions. Vous avez dit « nous n'avons pas de solution », je crois, mais on va en discuter en tout cas de ces solutions-là, notamment la proposition de faire du médecin quelqu'un qui soit en acte de pouvoir donné. Je ne sais pas si l'approche sacrificielle sera bien discutée tout à l'heure, mais enfin, c'est un gros sujet. Et aussi d'essayer de concilier, d'équilibrer pratiques libérales et services publics. Alors, pour continuer ces questions-là, nous allons donner la parole au professeur Guy Valencien. Vous êtes professeur d'urologie à l'Université René Descartes, Paris 5. Vous êtes président de l'École européenne de chirurgie. Vous avez été chargé de mission auprès du ministre de la Santé pour le plan Hôpital 2007. Et vous êtes aussi président du Cercle Santé-Société. C'est un organisme indépendant qui regroupe des personnes de sensibilités politiques différentes, des médecins, des économistes, des sociologues, des spécialistes de la santé publique. Et c'est un organisme qui a pour ambition, alors là je cite, de faire changer le regard sur les problèmes de santé, tant des décideurs que des acteurs, que des usagers. Décideurs, acteurs, usagers. Alors nous attendons beaucoup que vous nous fassiez, je ne sais pas, changer de regard, en tout cas nous aider à poser un nouveau regard sur ces problèmes que nous venons d'évoquer, en détaillant peut-être la mission des médecins, leur formation, et puis aussi ce qu'on peut attendre aussi des citoyens dans ce domaine-là. Alors merci de nous aider à réfléchir.
Je vais repartir de ce qu'a dit Didier Houssin. Nous sommes confrontés, le monde médical, le monde de la santé plus largement, est confronté comme le monde de l'agroalimentaire à un bouleversement considérable qu'il n'avait pas prévu et qui choque les hommes. Nous sommes en train de passer du stade de l'artisanat médical ou de l'art médical pour ceux qui veulent se valoriser et se faire mousser un peu plus, à celui de l'industrie du soin. Et c'est comme ça. Et on ne reviendra pas en arrière. C'est même pas la peine de discuter le bon temps du vieux Toubib dans sa maison en meulière au fond du village qu'on allait sonner jour et nuit. C'est fini. Ce monde-là était un monde qui a existé. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Alors bien sûr, quand on me dit, tu te rends compte, tu parles d'industrie du soin, tu veux parler d'hôpital-entreprise, tu vas dézinguer tout ce qui était, se faisait l'humanisme de la prise en charge médicale, eh bien je dis non. Non, et je prends comme exemple tout simplement la construction des voitures. En 1890, les premières voitures étaient faites à la main, et avec des produits extrêmement lourds, hein, du cuir, des grosses tôles, et puis il fallait un chauffeur, parce qu'on ne savait pas conduire, le volant était énorme, il fallait des bras de costaud, il fallait se mettre debout pour appuyer sur les pédales et tenter de freiner, les lampes à acétylène, porté à 3 mètres, et les pneus, quand il y en avait, du jour où il y en avait, crevaient tous les 5 kilomètres. Et puis, le petit Américain Henry Ford est passé par là. Et dans les années 1920, il a construit la voiture, toute noire, avec sa petite capote que vous connaissez, pour tous les employés, les ouvriers américains, à bas prix. Voiture standard. Donc on est passé de l'artisanat du carrossier à l'industriel de la voiture banale. Et aujourd'hui, eh bien, aller à Montbéliard, voir une chaîne de montage, par exemple, Peugeot, vous n'avez pas une voiture identique qui sorte les unes après les autres du système, avec une automatisation incroyable. Ma 306 n'est pas la vôtre. En moyenne, 200 000 modèles différents pour un type de voiture, quand on compte toutes les options. Donc l'industrie a su personnaliser sa production beaucoup plus qu'on ne le croit. Et nous en sommes, les médecins notamment, au stade du passage de l'artisanat à l'industrie, on aimerait passer de l'industrie type Ford et tayloriste à l'industrie personnalisée et faire le saut brutalement. Et c'est ce qui choque les acteurs. Et c'est pour ça que vous voyez les médecins libéraux désabusés. C'est pour ça que vous voyez les hospitaliers qui râlent tous les jours en ayant l'impression qu'ils courent après le temps et l'argent. Et on est dans un monde où la bienveillance des acteurs est en train d'être dépassée par la désorganisation du système. Il faut remettre de l'ordre. Alors quand on dit remettre de l'ordre, on vous dit, quand on parle rationalisation, on vous dit tu veux rationner. Non, je veux rationaliser. Une étude avait été faite par le KPMG à l'hôpital Beaujon, aux urgences justement, lieu critique de l'hôpital Beaujon, qui débordait avec des retards de prise en charge des malades comme vous les connaissez. Et donc ils ont filmé une infirmière pendant ses 8 heures de travail. Et puis ils lui ont repassé en accéléré, comme dans les Charlots. Et alors c'est extraordinaire de voir le film, parce qu'on voit la fille qui va chercher, dire bonjour au malade, et puis hop, elle fait 5 ou 6 mètres pour aller chercher une aiguille, et puis après ça, elle, encore 3 mètres à côté pour aller chercher la seringue, et puis elle revient faire encore un peu plus loin pour aller sortir le produit et faire qu'en sorte qu'on puisse injecter l'antidouleur immédiatement. Encore à un autre endroit, un peu de coton, Et ils lui ont redécrit un parcours en disant, écoutez, voilà, vous avez vu ce que vous avez fait pour arriver à faire une piqûre antalgique, le travail considérable, le nombre de pas, on va vous aider à organiser votre business. Et c'est ce qui a été fait aux urgences de Beaujon, et ça a permis de réduire le temps d'attente. Je veux dire par là, exemple peut-être trivial, que si nous ne passons pas par la réorganisation des procédures d'organisation des soins, nous continuerons à nous plaindre, les malades seront déçus et continueront à attendre des heures et des heures aux urgences. Donc il faut bien passer par ce stade de l'industrialisation, tout comme l'agroalimentaire, le paysan qui était dans son champ avec sa petite binette, et quand vous voyez aujourd'hui comment fonctionnent les grands de l'agroalimentaire, on s'aperçoit que l'on peut s'intéresser à leur évolution. Big is not beautiful. Too big est dangereux, comme too small est dangereux. Le petit hôpital, la petite clinique ne peut plus tenir avec toutes les technologies modernes. Ce n'est plus possible. Le très gros ne sait pas gérer ses hommes. Et on sait aujourd'hui que c'est la taille moyenne qui est l'idéal du lieu à la fois où on peut investir dans les moyens modernes de la médecine qui seront de toute façon de toujours plus chers, il ne faut pas se leurrer, et dans l'humanisme maintenu qui est la clé essentielle, bien sûr, d'une relation à l'être malade dans la mesure où il n'y a pas de médecine sans confiance, vous le savez. Et c'est vrai que, et Didier Houssin l'a bien montré, on a l'impression que les médecins ont un petit peu perdu ce rapport aux malades parce que d'autres acteurs sont intervenus, notamment les technologies de l'information. Eh bien, je dis, mais tant mieux si Internet est là. On ne voit plus un malade qui n'ait pas été sur Internet quand on a à le voir pour un cancer de prostate débutant. Mais c'est bien. Nous avons le même disque dur, eux et nous. Et tant mieux. Donc, en gros, la connaissance peut être la même. Ce qui fait la différence entre le malade et moi, c'est l'expérience. C'est que moi, j'ai vu des centaines de malades, des milliers de malades qui avaient un cancer de la prostate. Lui est tout seul et donc a besoin de cette aide. Et là, quand il s'est un peu approprié la maladie en allant surfer sur Internet, en général, ça le perturbe encore plus. Parce qu'il entend des mots, il apprend des choses, mais il ne les met pas en phase. Et le rôle du médecin devient alors encore plus naturel, parce que nous sommes là avec l'expérience pour remettre en phase ce que le malade a pris un petit peu tout partout, entre Internet, les copains qui disent ceci, cela, la famille, vous connaissez bien le système. Donc notre rôle est plus que jamais utile et plus que jamais indispensable, mais je suis convaincu qu'à l'avenir, il faudra que le médecin se détache de la matérialité de sa fonction. Nous n'avons pas besoin forcément de faire tous les gestes techniques pour prouver notre savoir-faire. Je suis actuellement, j'ai arrêté d'opérer, j'ai 67 ans, il y a un âge, il faut savoir arrêter. Vous savez, la chirurgie, c'est comme le sport ou l'opéra, il y a un moment où la voix chevrotte, il y a un moment où la main tremble, et il faut savoir s'arrêter. En revanche, je continue à consulter. Je suis très frappé de voir que les malades viennent de plus en plus nombreux parce qu'ils se disent, celui-là, au moins, il n'est pas avec son bistouri entre les dents et il me dira ce qu'il faut que je fasse et me conduira à qui fait le mieux. Et je pense que le rôle du médecin est celui-là et qu'il n'a jamais été réfléchi par les politiques, ni même par nous-mêmes dans la profession. C'est pour ça que toutes les réformes successives butent. Tant qu'on ne reverra pas la place et le rôle du médecin dans l'organisation sanitaire de notre pays, on continuera à faire des bêtises, à se dire il faut augmenter le nombre de toubibs, il faut mettre, on va continuer à parler de déserts médicaux, on peut faire ce qu'on veut. Il faut resituer la place et le rôle et la place du médecin. Et quel est-il, ce rôle et cette place? Aujourd'hui, nous sommes dans un métier de plus en plus normé. Depuis Bruxelles jusqu'à toutes les agences que tu n'y connais plus que moi, cher Didier, françaises, nous travaillons sur des rails. À partir du moment où, en fin de compte, l'ordinateur vous dit qu'il faut faire ça dans quel cas, si c'est pour cliquer, c'est pas la peine de faire 12 ans d'études et de prêter le serment d'Hippocrate. La délégation est très facile et des personnels non médicaux peuvent faire le job. En revanche, moi, médecin, mon rôle est de transgresser ces ordres parce que, autant statistiquement, on peut me dire l'évidence-based médecine est faite pour ça dans tant pourcent des 70% des cas. Si tu prends tel traitement, il y aura tant pourcent de résultats. C'est très bien, mais pour le malade, c'est pour lui, c'est 100% ou 0%. Donc, quand le malade vient me voir, il a besoin d'une décision personnelle. Et il peut arriver, dans la production de soins, permettez-moi d'appeler cela comme ça, que dans, allez, on va être entre 10 et 15% des cas, le malade ne rentre pas dans les règles que l'on veut lui dicter par les normes qui sont établies tous les jours à longueur d'emails envoyés depuis les agences jusque sur les bureaux des médecins et des directeurs d'hôpitaux et cliniques. Ça veut dire que nous devons, notre rôle, c'est de transgresser. Et c'est ça l'immense valeur du toubib, la transgression, porter le malade sur ses épaules, le temps de l'accompagner, de le guérir ou de l'aider à mourir. C'est ça notre métier. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'être nombreux, car tout le business autour peut être fait par d'autres personnels, et je pense que demain il y aura des ingénieurs opérateurs qui ne seront plus les chirurgiens que nous avons été avec Didier Houssin, qui seront des hommes ou des femmes. 70% de nos étudiants sont des femmes, et dans ma spécialité, le cours que je fais sur être chirurgien demain, c'est 50% de filles qui veulent être chirurgiens, et c'est bien. Et demain, nous aurons des personnels que nous pourrons former en 5 ans, comme dans la majorité des études supérieures. Pourquoi se dire qu'il faille 12 ans pour apprendre un métier comme la médecine ? Nous avons des études beaucoup trop longues, les étudiants le savent, le disent, nous perdons au moins 2-3 ans à patauger, et nous ne formons pas, et ça a été dit, les médecins à leur métier. L'université est décalée, elle ne professionnalise pas son enseignement, notamment pour la médecine générale, où on voit bien que nous sommes dans des services d'hyperpointe dans les CHU, et ensuite le pauvre jeune étudiant est balancé dans la campagne, les pieds dans la glèbe, avec des malades qui lui posent des questions auxquelles il n'a jamais eu à répondre quand il s'est formé. Donc là encore, nous sommes en décalage. Alors quoi faire entre cette vision du médecin qui doit être rare, parce que son rôle est rare, puisque dans 90 à 85% de la production médicale, les autres acteurs peuvent assurer le boulot. Nous devons être là en référence. Et je pense, pour rejoindre un peu ce que disait Jacques Attali, avec sa commission, qu'à terme, il faut que l'on aboutisse à 70% de médecins généralistes nouvellement formés, tels que je vous l'ai indiqué, à 30% de spécialistes, dont en gros 15% seraient des consultants médecins. Qui n'agirait pas ? Faut-il que le gastro-entérologue fasse la colonoscopie qu'il prescrit ? Je ne suis pas sûr. On parle beaucoup de liens et de conflits d'intérêts entre l'industrie médicale, l'industrie du médicament et les médecins. Il y a aussi de l'auto-conflit d'intérêts, où en fin de compte, quand on sait faire le geste, on le prescrit parce qu'on s'alimente. Donc je pense qu'il faut détacher le prescripteur, l'ordonnateur du réalisateur. Et puis, 15% donc de consultants qui n'agiraient pas, mais qui proposeraient d'eux, et 15% de purs techniciens qui font les gestes. Vous savez bien que dans mon métier, dans notre métier, la répétition, le savoir-faire quotidien est une preuve de qualité, et on sait très bien là encore que quelles que soient les données alentour, c'est le chirurgien lui-même, dans mon métier, qui est l'élément déterminant. Bien sûr, le centre dans lequel il exerce, les équipes d'anesthésistes, d'infirmières et de direction autour sont importantes. Mais quand on a éliminé tous ces facteurs et quand on voit des différences de résultats dans les études américaines, c'est très bien montré, c'est quand même le chirurgien lui-même qui fait la différence. Donc, en gros, après avoir recentré le rôle du médecin de cette sorte, que faire ? Vous voyez que dans l'organisation des métiers, et ça c'est une des choses qu'on avait pu pousser, heureusement ça part bien, c'est le regroupement des hommes et des femmes, tous métiers confondus, ce qu'on appelle ces maisons de santé pluriprofessionnelles, non pas pluridisciplinaires. Ce ne sont pas le gastro-entérologue qui va envoyer au pneumologue, qui va envoyer au cardio, qui va envoyer au rhumato, qui va envoyer à l'uro, qui va envoyer à gynéco. Ce sont des métiers différents, donc infirmière, kinésie, podologue, orthoptiste, orthophoniste, psychologue, pharmacien, médecin, réunis sous le même toit, et qui assureront dans les régions la prise en charge de premier recours, dont les urgences, la petite urgence qu'on appelle dans notre jargon la bobologie, qui ne nécessite pas de faire des kilomètres et de se retrouver au CHU en attendant 10 heures pour avoir 3 points de suture sur le front, et qui assureront donc sous toute cette prise en charge de l'angoisse, parce que dans l'urgence vous avez beaucoup d'angoisse. Une étude a été très bien faite, pour vous donner un exemple amusant, dans le Jura, où les médecins généralistes se sont réunis des différentes maisons de santé qui existaient pour assurer une permanence de soins et donc dire à la population et aux petites mairies, voilà, au portable, nous sommes joignables au week-end. Du jour où la population locale a su que le médecin était joignable au portable, 35% d'appels en moins. Voilà. Parce qu'on savait qu'il était là, joignable. Mais quand on ne sait pas, on se déplace. Et pour un oui, un peu un non. On se déplace toujours, de toute façon, c'est toujours après le match, hein, quand même. Les urgences, c'est à partir de 11, 23 heures que ça chauffe. Avant, on est bien. Il faut quand même attendre la fin du match. Bref, donc ces maisons de santé, dont 300 existent en France actuellement, dont 1000 projets sont en cours, il en faudra une par canton chez 3400, 3500 maisons de santé, qui seront, ne m'en veuillez pas de dire cela au centre Sèvres, mais qui seront un peu comme les clochers, comme les églises d'hier, qui regroupaient, et qui regroupent encore, mais qui seront la croix bleue, illuminée jour et nuit dans les villages. Voilà, autour duquel vont s'agglutiner, car il y a des projets d'aménagement du territoire, les maisons de retraite, qui seront de plein pied. On met les maisons de retraite dans la campagne, au fin fond, dans des vieux châteaux, et les petits vieux sont là avec les chats et les pigeons. Ils ne voient personne. Il faut les mettre dans les villes, dans les villages, pour être au contact de la population active, et c'est comme ça qu'ils vivront mieux. Donc on voit bien qu'il y a un énorme problème d'aménagement du territoire, et je peux vous dire que les bâtisseurs, les Vinci, les Bouygues, sont très intéressés par ces projets, car c'est de la construction en plus. Donc, maison de santé, premier recours, qui regroupe les professionnels. Au deuxième, au niveau, les hôpitaux, et là, privé, public, et c'est là où, effectivement, on a eu le débat, il y a le débat actuel. Vous savez que la loi hôpital, patient, santé, territoire avait abrogé la notion de service public hospitalier, notion nouvelle, hein. Elle date de 1970, cette notion de service public hospitalier. C'est très nouveau, sous Pompidou. En disant, on supprime public et on fait service hospitalier de façon à ce que tous les acteurs, privés ou publics, puissent y participer. Roselyne s'en va, Marisol arrive, boum! Et là, pour faire plaisir aux hospitaliers, on remet, qui pleurait en disant, on nous a supprimé le nom public du siège hospitalier, donc on remet public à hospitalier pour faire bien, ça ne va rien changer du tout. De toute façon, il faudra que les acteurs s'entendent. Car nous avons un système extrêmement dual en France, je vais m'arrêter là, très, très, très dual entre privé et public, qui est tout à fait unique au monde, qui est une force et une grosse faiblesse. Et c'est une force si on peut vraiment faire s'entendre les acteurs ensemble. Et puis, deuxième niveau, donc les hôpitaux, après la maison de recours, privé ou public. Et troisième niveau, le recours au CHU, la recherche, l'application. Mais le CHU, je termine, le CHU doit, lui, inverser sa façon d'être. Le CHU, c'est typiquement le casque à pointe. On part de la pointe pour aller jusqu'à la base. Là où sont les malades, c'est en ville. C'est donc à partir de ces maisons de santé que les protocoles thérapeutiques et diagnostiques demain devront être lancés beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'il faut donc universitariser ces maisons de santé. On commence à voir des professeurs de médecine générale depuis quelques années, des chefs de clinique de médecine générale, des internes de médecine générale. C'est très bien, il faut multiplier la donne de façon à ce que le CHU englobe aussi dans un partenariat sain et non pas dans un aspect, dans une vision captatrice. Ces structures de soins privés, pas public, parapublic ou public, je veux dire, moi je m'en fiche de cela. Vous savez que, et je finis par là, la convention... C'est la convention qui a nationalisé les hôpitaux et hospices qui appartenaient souvent à des congrégations ou qui étaient tenus par des congrégations, même si les terrains ne leur appartenaient pas toujours. Et puis, au bout d'un an, la convention, c'est lourd ce truc-là. Donc, elle a balancé ça aux nouvelles mairies. C'est pour ça que le maire, pendant deux siècles, a été le patron de l'hôpital dans le cadre du conseil d'administration. Ce que la loi Hôpital Santé Patient Territoire a supprimé, de façon à ce qu'on puisse nommer éventuellement quelqu'un d'autre. Mais les maires, très malins, ont toujours su faire nommer celui qu'il fallait s'ils ne pouvaient pas reprendre la place eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas, c'est tellement vital. Bref, pour vous dire que la notion de service hospitalier public est nouvelle, hein, est nouvelle. Et moi, je pense véritablement que si on accepte ce terme d'industrialisation de la santé, si on accepte de remettre le médecin dans son rôle d'expert, de conseiller, de porteur du malade, et de celui qui, parce qu'il est religieusement, familialement, professionnellement, sociologiquement, culturellement différent des autres et qu'il ne rentre pas dans le moule des traitements, et bien que celui-là, quelqu'un puisse l'aider à vivre, voire à survivre. C'est un peu ça, pour moi, le rôle du médecin de main. C'est le plus beau, c'est le plus passionnant. Et c'est vrai que là, dans mon métier, la chirurgie, ce qui est le plus passionnant, c'est d'être avec les malades, c'est de discuter, d'échanger avec les malades. Ce n'est pas le geste opératoire en soi. Voilà.
Merci beaucoup, professeur Guy Valencien. Vous avez, je crois, bien réussi avec fougue à nous faire comprendre que le monde de la santé est bien confronté à un bouleversement que nous n'avions pas prévu, comparable, vous l'avez dit, au passage de l'artisanat à l'industrie. Et donc, on pourrait rester inquiet sur l'avenir, mais vous nous dites quand même qu'il est possible d'imaginer cet avenir de la médecine et de la santé dans notre pays. Vous avez pointé plusieurs enjeux, celui qui est bien de rationaliser et de réorganiser le système, de revoir le rôle et la place du médecin, de réorganiser les différents niveaux de santé, notamment avec les maisons de santé que vous avez évoquées. Alors, ce sont de nombreux chantiers qui sont quand même pas très simples, finalement, à mettre en œuvre. Et sûrement que nous allons peut-être avoir maintenant un débat qui va permettre de faire apparaître peut-être la difficulté de la mise en place de ces différents chantiers que l'un et l'autre vous avez soulevés. Alors, nous n'avons jamais eu autant de temps que ce soir pour un débat. Je remercie nos invités parce que c'est très rare que nos invités restent et se conforme aux 20 minutes prévues. Donc, ça nous. C'est la technicité médicale qui, une fois encore.
C'est la moindre des politesses.
Ah oui, mais tout le monde n'a pas toujours cette politesse. Alors, donc, ça va nous donner un long temps, trois quarts d'heure de débat, pour pouvoir échanger sur vos propos et plus largement sur l'avenir de la médecine dans notre pays. Alors, comme nous en avons l'habitude, eh bien, nous allons essayer de recueillir d'abord quelques questions ou convictions. Avant de rendre la parole à nos invités pour qu'ils puissent répondre. Voilà, n'hésitons pas à lever la main pour bien vous repérer.
Ça marche. J'aurais deux questions. La première, c'est quel est l'avenir de la médecine libérale ? Deuxièmement, sur le plan des formations des médecins, est-ce qu'il existe toujours en France des numerus clausus qui font qu'il y a plus de très nombreux candidats à des études de médecine et très peu de recrues ? Je peux dire, sur Descartes, par exemple, que vous connaissez bien, au dernier concours, il y avait 3500 candidats pour 200 places. Et on fait venir de l'étranger dans les hôpitaux des médecins formés en Égypte, en Roumanie, ou je ne sais pas où. Est-ce que c'est normal ?
Voilà, on va prendre peut-être quelques questions, et puis après... Donc, médecine libérale. Voilà. Père Verspirène.
Vous avez dit que la notion de service public hospitalier est une notion relativement neuve, qui remonte à une quarantaine d'années. Mais est-ce que les médecins libéraux, la profession médicale libérale, avaient le sentiment de participer à un service public. Moi, je me souviens dans ces années 70 des débats acharnés. C'était le début des conventions avec la sécurité sociale et c'était la grande défense des principes de la médecine libérale. Et sortir de la médecine libérale paraissait quelque chose de très difficile et d'un peu scandaleux. Il fallait vraiment défendre ça au nom de la liberté des médecins, mais aussi des malades. Et donc, ces médecins-là, à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient l'impression de participer à un service public ? Peut-être un service de la population, là, dans le village ou la ville, dans leur quartier, mais un service public, est-ce que c'était une notion vraiment tellement acceptée à l'époque ? D'ailleurs, l'est-elle aujourd'hui ?
Merci Patrick. On va prendre une troisième au milieu et puis on reviendra après. Voilà, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà.
J'ai une expérience un peu particulière ayant travaillé à la fois en CHU et ayant fait des remplacements, y compris dans le Jura, et connaissant certaines zones dites désertiques de la France où il y a des médecins absolument admirables. Et si M. Valencien peut m'écouter, pour moi, public-privé, c'est complètement virtuel. Et il se trouve que je connais un médecin qui fait un sacerdoce, on va le dire, puisqu'il travaille jusqu'à minuit, 2h du matin. Il travaille certains dimanches. Les gens l'appellent. Il va sonner à leur porte pour les réveiller la nuit tellement il est débordé. Et il se trouve qu'il a pris un associé à un moment. Et dans la salle d'attente, il y avait du monde pour lui et pas pour l'autre. Donc, public-privé, il se fait payer au secteur 1, évidemment. Donc, il est autant pour moi, il fait autant de... Même, il travaille beaucoup plus d'heures que presque tous les médecins français, puisqu'il travaille presque tous les dimanches et toutes les nuits jusqu'à 2-3 heures du matin. Et si vous pouvez nous parler de la qualité, justement, de formation, puisque c'est ça le problème. Autant être opéré une fois bien, plutôt qu'être opéré une première fois et réopéré 2-3 fois par quelqu'un d'autre.
Ça, c'est sûr, oui, il avoir la choix. Bien. Peut-être que je vais laisser la parole à M. Didier Houssin, peut-être sur la formation des médecins, et pour commencer, et puis après on viendra sur l'avenir de la médecine libérale, puisqu'il y a plusieurs questions autour de ce thème.
Merci. Mais écoutez, sur la formation, effectivement, le numerus clausus existe. Hein. Alors, le point qui est important, je crois, à avoir bien présent à l'esprit, c'est que c'est la durée qu'a dit Guy Valencien des études qui fait que c'est un système qui a une très grande inertie. C'est-à-dire que, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on va avoir les conséquences en termes démographiques des décisions qui ont été prises en termes de numerus clausus il y a bien longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez très bien, effectivement, vous trouver dans la situation où... pendant une période donnée, en raison des conséquences de ce qui a été décidé il y a longtemps, il est nécessaire de faire appel à des médecins étrangers. Donc aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire remonter le numerus clausus en prévision des évolutions démographiques, etc., etc. Mais on sait que les conséquences ne seront perceptibles que dans, en tout cas, en moins une dizaine d'années, et en général un peu plus. Donc cette question du numerus clausus, elle est effectivement un moyen, un levier d'action, mais qui est un levier d'action avec un très grand pas de temps et une très grande inertie. Voilà ce que je peux dire sur... Bon, concernant la formation, vous avez évoqué la qualité de la formation. Bon, moi, je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, en France, il y ait un grave problème de qualité de formation des médecins, même s'il y a certainement des améliorations qui peuvent être apportées. En revanche, je partage le point de vue de Guy Valencien sur le fait que les choses évoluent trop lentement concernant l'adaptation de la formation des médecins généralistes, même s'il y a eu des pas de fait, la spécialité médecine générale, les professeurs de médecine générale, les stages chez un médecin généraliste, tout ça évolue très lentement, trop lentement, et aujourd'hui je crois qu'il y a un décalage entre la formation d'un certain nombre de médecins généralistes et celle qui devrait pouvoir leur être apportée, c'est sûr.
Est-ce que Guy Valencien, sur ces questions-là...
L'enseignement
on... Oui.
Sur l'enseignement et le numerus clausus. Sur l'enseignement, moi, je considère que nous avons fait une grosse erreur en divisant les professionnels de santé en deux catégories, médicaux et paramédicaux. Tout métier de soignant, quel qu'il soit, est médical, mais à responsabilité variable. Et je pense qu'on va revenir à cela, puisque vous savez que les infirmières, maintenant, rentre dans le cycle licence, master, doctorat. Il faudra que les médecins aussi y passent. En 8 ans, on peut former très bien un jeune carabin. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ou 12. En 8 ans, si on sait les prendre tôt, sachez quand même qu'il faut attendre le concours de l'internat, donc 6 ans et 7 ans en général, parce qu'on a redoublé la première année, pour savoir si on va être chirurgien, psychiatre, généraliste, spécialiste médical, faire de l'industrie pharmaceutique. C'est de la folie. Au bout de la licence, on doit décider et s'orienter. Et on doit décider et s'orienter en fonction de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'un médecin qui va être un médecin praticien devra passer, qu'on le veuille ou non, un oral. Quand on s'adresse à des gens, y a un don pour ça, il y a ceux qui ne savent pas. Et celui qui n'est peut-être pas doué pour la communication, mais qui est un fantastique gourou de l'esprit, fera peut-être un très bon chercheur. On ne lui demandera pas forcément d'être un relationnel. Voilà. Donc je crois qu'on doit... raccourcir les études, orienter plutôt les professionnels, et dans ce cadre-là, médecins, infirmières, qui auront des niveaux différents. L'infirmière est à la licence, il y aura un master 1, un master 2 pour des professionnels assistants, ou des professionnels avec de véritables responsabilités. Ce n'est pas de la délégation d'actes où on reste responsable, nous médecins, c'est du transfert de compétences et de responsabilités vraies à des professionnels adaptés, comme il en existe dans les pays anglo-saxons de plus en plus. Ça crée des difficultés. Moi, j'en avais parlé à Marisol Touraine en me disant mais c'est le meilleur moyen de répondre à la désertification, si elle existe. Parce qu'on parle de désertification, on sonne son médecin pour 23 euros, 7 euros, au total une fois le remboursement fait, pour un oui ou pour un non. Il faut voir, moi j'ai fait plein de remplacements de médecine générale, et c'était il y a un moment. Donc, c'était sidérant, sidérant. Donc il n'y a plus cette espèce de... Il n'y a pas cette organisation entre différents métiers qui permette de parer au débordement médical ou au soi-disant désert. Et à la limite, s'il y a désert, ils sont plus au centre de Paris, en généraliste, qu'en campagne. Parce que là où il y a des déserts, c'est souvent que là aussi, il n'y a plus personne. Alors on nous dit, oui, l'égalité républicaine, accès pour tout le monde, à tout, c'est fini. Entendez-vous les Iliens se plaindre qu'ils n'ont pas accès facile à de la médecine? Les avez-vous jamais entendus? Jamais. Ils se débrouillent entre eux et on arrive par télémédecine. On arrive très bien à s'organiser. Mais alors quand on est dans le sud-ouest, là, attention, dès qu'il y a un médecin qui part, c'est le drame dans le village. Le maire joue des pieds et des mains, va chercher un médecin roumain parce qu'aucun français ne veut venir. Et puis le médecin roumain arrive, 3 mois, on a repeint les locaux, on a dépensé de l'argent. Il est tout seul, le pauvre vieux, il parle un français comme ci, comme ça, même si c'est une langue latine. Et puis au bout de 3 mois, il s'en va, parce qu'il a le mal du pays, donc on a tout faux. Je ne sais plus qui me parlait de ces médecins étrangers, on a tout faux. Nous avons besoin, nous sommes très nombreux, nous avons 200 000, 210 000 toubibs, c'est très bien. Il y a une répartition effectivement inégalitaire, et on peut revoir les choses, mais je ne pense pas que, honnêtement, l'avenir soit à réinjecter du médecin, il est à développer les corps intermédiaires. Il n'y a pas un monde, un pan d'industrie, il n'y a pas un pan d'activité humaine où on mette des bac plus 12 à faire des tâches de bac plus 3. Trouvez-moi un, mais moi je ne connais pas. Voilà. Ben, c'est tout.
Merci. On va continuer en restant un peu sur ce sujet-là, qui est celui de l'avenir de la médecine libérale. Voilà. Comment Didier Houssain, vous voyez cet avenir de la médecine libérale et est-ce que vous avez le sentiment, dans le passé et aujourd'hui, que les médecins libéraux se sentent faire partie de ce service public hospitalier?
Non, je crois qu'aujourd'hui, ça c'est clair, les médecins libéraux ne se sentent pas faire partie du service public hospitalier. Là, je réponds à votre question et à la question du père Verspirène. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que même si dans leur pratique, il y a beaucoup d'aspects qui ressemblent à ce qu'on peut considérer comme un service public, ne serait-ce que participer à la permanence des soins, c'est une forme de participation à un service public. Bon, de même que accepter tous les malades, c'est également participer à un service public. Donc, disons que dans la pratique, beaucoup peuvent être considérés comme des agents publics. Mais malgré tout, ils restent attachés à des choses qui sont pour eux des libertés et qui sont caractéristiques de la médecine libérale. J'en ai dit les trois principales, liberté de prescription, liberté d'installation et liberté de fixation du dépassement d'honoraires. Encore ça, aujourd'hui, c'est malgré tout très, très, très encadré. Donc moi, je crois que aujourd'hui, et c'est là que se trouve la crise, et c'est pour ça qu'ils sont malheureux, et c'est ça dont il faut sortir. Je pense que les solutions qui se dessinent à travers le regroupement, la coopération professionnelle avec les infirmières, les kinés, etc., les pharmaciens, je pense qu'il y a là une piste extrêmement importante pour entraîner petit à petit une mutation dans leur pratique. Mais moi, je pense qu'on n'échappera pas à la question des missions fondamentales du médecin, en particulier de l'équilibre de son rôle entre activité de soins et activité, je dirais, de santé publique. Voilà. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre et je pense qu'on devrait arriver à trouver un meilleur équilibre. Et je suis convaincu qu'à travers cette mission de santé publique, les médecins s'en sentiraient moins, se sentiraient mieux dans cette... Mais bon, c'est l'idée que je m'en fais et peut-être que je me trompe. Mais alors, ceci dit, il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance des médecins libéraux, le poids politique qu'ils représentent. Moi, je suis frappé quand même de constater que... parce que je les ai quand même côtoyés, et en tout cas j'ai côtoyé les ministres qui les ont côtoyés. Pour un ministre, c'est pas facile de faire bouger la médecine libérale. Donc là, il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance. Hein. Elle est considérable.
Vous voulez ajouter un mot sur ce point-là? Et puis on va prendre quelques questions.
Non, comme vous voulez.
Allez-y.
Oui, non, il y avait une question sur la médecine libérale existe-t-elle toujours, c'est ça?
Oui.
Je dirais non. Non. La médecine entrepreneuriale, la médecine libre existe de plus en plus encadrée, mais la médecine libérale a disparu dans la mesure où elle est subventionnée. Les métiers libéraux, ce sont les architectes, les avocats par exemple. Mais à partir du moment où il y a subvention et tiers payant et financement par les cotisations, On n'est plus dans un monde purement libéral. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une asymétrie entre l'offre et la demande. À partir du moment où il y a une subvention, ben, c'est là où on voit qu'on peut mettre beaucoup de médecins dans un endroit et il y aura une augmentation de la production. Parce que comme nous sommes dans une médecine qui n'est pas chère en France, je suis désolé de vous le dire, mais si vous regardez le reste du monde dans les pays à produit intérieur brut identique, nous sommes les moins chers au monde. La médecine française et les médecins en particulier, les médecins français ne sont pas chers. Je vous le dis direct. Donc arrêtons de penser qu'on n'a plus d'accès, que c'est scandaleux. C'est faux. Nous faisons une médecine de bonne qualité qui est vraiment très peu chère. Pas assez chère. J'en reviens à la médecine libérale. Donc les seuls médecins libéraux, ce sont ceux qui sont hors secteur. Il y en a 0,3%, à peu près 600 à 700 en France. Beaucoup concentrés dans la capitale, mais certains en pleine campagne. Je connais deux généralistes qui ont dit « j'arrête d'être pris dans la nasse du système de plus en plus contraint, je reprends ma liberté ». Et là, il est redevenu purement libéral, au sens où il fait ce qu'il veut. Et ils m'ont dit, les deux que j'ai vus, je revis. Et les malades me considèrent encore plus, parce qu'ils viennent me voir quand ils sentent que c'est vraiment utile, et pas pour un oui et pour un non. Je suis désolé de le répéter, on a trop bouffé du médecin à longueur de jour et de nuit. Donc voilà, donc je dis non, la médecine n'est plus libérale, mais elle doit garder, c'est là où je suis libéral en sens entrepreneurial, elle doit garder la liberté d'entreprendre, c'est ça, sa force, même si elle est subventionnée. Alors faut-il inciter ou obliger les médecins à s'installer là où il n'y en a pas? Je crois que tout ça est faux. L'incitation ne marche pas, l'obligation n'a jamais marché dans aucun pays, jamais, jamais. Et donc c'est en fait le transfert de compétences et de charges sur des personnels intermédiaires. Au Canada, vous avez dans l'Ontario des généralistes dont le périmètre d'action est d'environ 150 km. Ah, 150 km. Ils font comment? Il doit être des petits lacs partout, là. Et la nuit et l'hiver. Eh bien, et la neige. Ils ont des nurse practitioners, qui sont des femmes qui ont un niveau d'infirmière plus, donc niveau master, qui assurent la prestation dans les villages. Il y a des relais avec des systèmes de télémédecine. Donc le malade peut être en contact éventuellement avec le bon docteur à 150 km. Et effectivement, si ça ne va pas, soit on envoie l'ambulance, soit c'est lui qui vient avec son petit hydravion et qui se pose sur le lac d'à côté. Donc il y a des pays qui savent organiser les systèmes. Nous, en France, on est là, il n'y a que le médecin qui doit tout faire. Faut-il que le médecin fasse un certificat d'aptitude au sport? L'IRSU à 3 mètres, voir si on a les genoux cagneux. Enfin, c'est fait. C'est grotesque, on passe par un certificat médical pour ça. Non, c'est fini. Donc, gardons la substantifique moelle de notre métier. Je répète, l'écoute, l'accueil, la prise en charge de l'autre, c'est ça qu'on nous demande. Tout le reste peut être délégué.
Merci. J'espère que personne n'a été voir un médecin pour ce genre de demande dans la salle, sinon on est très très mal. Alors, on va reprendre quelques questions. Je crois qu'il y en avait une au deuxième rang. Le micro va arriver. Voilà, tout de suite ici. Voilà.
Bonjour. Comme beaucoup de citoyens français, je suis embarrassé entre deux ambitions. La première, c'est que dès que j'ai mal, je veux qu'on me soigne, tout de suite, maintenant. Et la deuxième, c'est que je ne veux pas payer. Est-ce que, par rapport à ça, notre système français est bien celui que nous voulons? Et peut-on s'inspirer, si on voulait jouir d'une carte blanche, réorganiser complètement notre système français, peut-on s'inspirer d'autres expériences?
Merci. Alors, on va prendre une question juste devant qui nous vient de Bordeaux, parce qu'on est très, très bien organisé et donc on a en direct des questions de Bordeaux. Enfin, il n'y en a qu'une, en l'occurrence.
Oui, je parle au nom des Bordelais qui écoutent et je relaie donc une de leurs questions. Il y en a plusieurs, mais j'en sélectionne une. Dans l'hypothèse d'une multiplication des acteurs ou d'une séparation entre celui qui ordonne le geste et celui qui l'exécute, n'y a-t-il pas un risque d'éclatement et de déshumanisation pour l'expérience du malade?
Merci, merci Bordeaux. Voilà, une troisième, alors on va aller de ce côté-là. On fait toujours faire du sport au porteur ou à la porteuse de micro. Levez bien la main, voilà, la première.
Merci. Pouvez-vous nous parler des conséquences de la thérapie génique du Téléthon?
Ah, question très particulière, mais voilà. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, on reviendra aux autres questions. Alors, donc, nous avons François qui veut qu'on le soigne mais, et qui ne veut pas payer, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Je ne sais pas, monsieur Houssin.
Je veux bien tenter une réponse, mais Guy certainement exprimera son point de vue. Bon, j'ai l'impression qu'en France, c'est quand même un petit peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout, tout de suite et ne pas payer, c'est en gros un peu comment ça se passe en France. Alors, avec des limites, avec des freins, avec des difficultés. La difficulté surtout, c'est est-ce que ce système peut continuer, perdurer, et dans quelles conditions, etc. Bon, on voit bien sur quel point ça craque. C'est la question des déserts tout de suite, mais encore faut-il qu'il y ait un médecin. La question de l'afflux des personnes qui vont aux urgences, souvent pour des motifs qui ne le justifieraient pas. Il y a la question des dépassements d'honoraires, donc ne pas payer, mais encore faut-il, voilà. Donc on voit bien qu'à travers votre question, vous identifiez bien les points de tension actuellement du système. Alors, quelles sont les réponses qui ont pu être apportées dans certains pays? Bon, par exemple, je sais que dans certains pays, l'accès aux urgences hospitalières est régulé. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas accéder aux urgences hospitalières. Il y a une forme de tri qui, en gros, fait que, si vraiment c'est... Alors, ceci dit, le système du SAMU Centre 15, c'est un peu... C'est exactement ce rôle que ça devrait jouer, que ça doit jouer. Mais malheureusement, ce système n'a pas une efficacité totale et il est contourné par beaucoup de familles qui se précipitent aux urgences de Robert Debré avec leurs enfants quand il y a la fièvre, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est sûrement intéressant de voir les expériences qui peuvent exister dans d'autres pays, mais la transposition n'est jamais simple parce qu'il faut tenir compte du contexte, de la culture, enfin bref, il y a tout un tas de facteurs. Donc moi, je crois que les solutions qui ont été envisagées, en particulier le regroupement des professionnels, une formation plus adaptée, de mon point de vue, un réexamen des missions et du rôle du médecin, je pense que ça peut être des manières de... Et d'élever aussi le niveau d'intervention de ce qu'on appelle aujourd'hui les paramédicaux. Par exemple, ça, c'est sans doute une manière aussi de répondre à certaines des difficultés.
Guy Valencien, peut-être sur
oui,
cette question.
Oui, c'est vrai qu'en fait, nous sommes tous pareils. On veut voyager en premier avec un billet de seconde, ça c'est clair. On aime bien ça. On aime bien sauter par-dessus les portiques. C'est très français. Mais au-delà de ça, vous avez les deux grands pans que sont l'enseignement et la santé en France doivent être gratuits. Voilà. Et on veut que ça soit qu'ils soient les meilleurs. C'est pareil pour l'enseignement. 350 € de l'inscription en fac, c'est scandaleux. C'est pour ça qu'on a des amphis avec des lampes qui ne marchent pas, des rats qui courent le long des murs, des radiateurs qui ne chauffent pas. Enfin, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc, le français ne veut pas payer. En revanche... Ça, on n'hésite pas à payer. Ça, c'est très clair qu'on vous dit, mais c'est aujourd'hui, c'est comme ça, on ne peut plus se passer de portable. Effectivement, à 30 € par mois, vous êtes à 360 € par an. Ça passe comme ça. Regardez les budgets informatiques des ménages, ils explosent. Ils explosent. Et mais personne ne discute. Ça, c'est normal. Mais dès qu'il faut mettre une franchise en essayant de responsabiliser les gens de 50 €, c'est le drame. Par an, c'est le drame. Et pareil pour l'enseignement. On mettrait tout d'un coup la fac à 500 €, vous avez 1 million d'étudiants dans la rue. Donc nous sommes un pays non vertueux dans ce domaine qui refuse de financer à la hauteur des ambitions que l'on attend l'enseignement et la santé. C'est comme ça, j'en suis triste et je ne suis pas sûr que ça change vraiment, alors que ce sont deux facteurs essentiels, l'enseignement permettant ensuite effectivement les domaines de la recherche. Et dans mon métier, dans notre métier, la recherche est essentielle. Vous savez combien de pans nous avons perdus, que ce soit l'industrie pharmaceutique, l'industrie des matériels médicaux. Tout a disparu, quasiment. Quand Gomez a vendu en 1986, pour des raisons de court-termisme minable, la compagnie générale de radiologie à General Electric, l'américain, il a fait la plus belle erreur qu'un industriel puisse faire, car aujourd'hui, la médecine vide l'imagerie. C'est l'élément du diagnostic. Eh bien, nous n'avons plus d'industrie. Donc, moi, comme Didier, quand nous prescrivons, c'est Toshiba, Siemens, General Electric que nous enrichissons. Et plus la France. Donc, attention à ce genre de délire industriel court-termiste. Et je répète, si on veut vraiment relancer la machine, il faudra payer plus cher. Il faudra payer plus cher les soins. Il faudra payer plus cher sa santé. C'est comme ça. On n'y échappera pas. Parce que les couvertures ne suffiront pas.
Est-ce que nous pourrions continuer sur cette question-là? J'ai pris quelques chiffres. Il y a 5 millions de Français ayant de petits revenus qui n'ont pas d'assurance complémentaire, qui renoncent à beaucoup de soins. Il y a un projet de loi qui a été déposé qui autorise les mutuelles à constituer des réseaux de soins en passant des conventions avec des médecins. Qu'est-ce que vous pensez de ces projets de réforme, à la fois des mutuelles et des assurances? Ça va bouleverser le soin. Est-ce qu'on ne va pas avoir des formes de soins à deux vitesses? Comment assurer une qualité de soins? Et puis, reprenons la question que vous avez posée, les Français ne veulent pas payer. Qu'est-ce qu'il y a comme pédagogie, comme politique à faire, justement? Mais je pense que c'est une grosse question autour des assurances et des mutuelles. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire un mot, peut-être tous les deux, sur les projets de loi actuels?
Non, mais... Vous savez comme en classe, on se retournait toujours, on faisait du bruit, et puis on regardait, pour ne pas faire celui, pour ne pas être pris. Vous voulez qu'on parle de l'assurance,
la couverture? Il faut bien qu'on parle du financement aussi, ça me paraît une grande question, cette question de financement. Et la place des assurances, ou la place nouvelle qui serait prise par les assurances, ou par les mutuelles, ceux qui pourront payer, pas payer, est-ce qu'il y aura des patients qui seront sélectionnés sur leur profil médical et qui auront droit à une assurance particulière parce qu'ils sont trop exposés à un certain nombre de pathologies et donc ils auront des tarifs, vous voyez. Donc la question de l'égalité aussi d'accès de tous aux soins se pose.
D'accord. Le principe de la sécurité sociale, c'est-à-dire cotiser en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins, est un bon principe. Il est un excellent principe, mais ça marche quand vous êtes en plein emploi. Voilà. Et quand vous avez effectivement 3,5 millions de chômeurs plus tous ceux qui ne cotisent pas du tout et qui dépensent souvent plus que les autres, le système grippe. Quand en plus ce système, je dirais socialisé, rend un peu irresponsables les acteurs d'une certaine façon, on a vu toutes les dérives qu'il y a en arrêt de travail, qu'il y a en utilisation d'ambulances, qu'il y a en prescription médicale inutile, c'est fou si vous voulez. L'argent, on l'a. Sur les 200 milliards de la Sécu, véritablement, le fric, il est là. Nous sommes riches de cela. Mais le gâchis est considérable. Il est considérable. Je peux vous donner des exemples. Vous pouvez réduire de moitié les frais d'ambulance sur les 3,5 milliards, ça en fait déjà un 7. Vous pouvez réduire de moitié les examens biologiques et radiologiques, s'il y a des biologistes qui ne m'en veulent pas. Mais il n'y aura pas un mort de plus en France. Pas un mort de plus. On le sait, puisque nos amis radiologues nous disent « Écoute, je fais des examens pour rien ». Donc l'idée du principe de précaution, la couverture assurantielle pour se dire « je le fais parce que sinon je risque d'être poursuivi » est désastreuse. Nous sommes le seul pays au monde à avoir inscrit dans notre constitution ce principe qui est une catastrophe en termes de pratique médicale et en termes de recherche. Et je ne sais pas si un jour un président de la République osera le désinguer, mais c'est effrayant car on fige toute l'évolution possible d'un système qui pourrait permettre de faire travailler à la fois des assureurs, des mutuelles, et le principe de base de la sécurité sociale qui, à mon sens, demain, et ce sera comme ça, assurera le risque lourd et le petit risque sera pris en charge par des mutuelles ou des assurances. C'est déjà le cas du reste, vous le savez, pour les lunettes et la dentisterie, d'une façon plus ou moins bonne, mais ce sera comme ça. Je crois que la vision égalitariste que nous avons en France est tous les jours bafouée. On nous dit, oui, mais tu vas créer une médecine à deux vitesses. Mais elle est à 10 vitesses, la médecine, déjà aujourd'hui. L'enseignement, c'est pareil. Ah non, 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 non. Examen classant national pour l'internat. Mais on sait très bien, les gamins savent très bien quelle fac colle met les 500 premiers dans le collimateur avec 30% de reçus. Ils le savent et ils vont faire l'effort pour aller là où il faut. Donc, non, non, égalitarisme républicain. Et par-dessous, on se débrouille toujours pour aller dans les meilleurs collèges, les meilleurs lycées, et savoir et connaître les meilleurs médecins par la bande. Donc arrêtons et regardons un peu le monde. Oui, il y a une inégalité. Oui, il y a des inégalités face effectivement aux maladies génétiques. J'en dirai juste un mot parce que la question est très intéressante. Oui, l'idée n'est pas d'être égalitaire, l'idée d'être équitable. Et ça, on ne veut pas, on refuse. Tout le monde a le droit à tout dans ce pays. Et tout le monde sait tout par Wikipédia. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, je suis désolé. Je voudrais juste répondre à madame, parce que sa question est très vraie. C'est vrai qu'on peut se poser la question, Pierre Berger l'avait fait du reste, de le Téléthon, est-il licite, peut-on utiliser les chaînes publiques pour, à des visions d'une institution privée, qui ramène quand même pas loin de 100 millions d'euros dans la soirée. Je vais plus loin, avec la détection aujourd'hui, qui va coûter de moins en moins cher, on va être à 100 euros ou 50 euros de pouvoir se faire génotyper. Ça, sur une petite carte à puce grande comme ça. Quand je saurai que je suis à 100% de risque d'Alzheimer à 55 ans, ou de cancer de ceci à 48 ans, que vais-je faire? Je vais mettre l'argent que j'ai au service de ma cause, à moi. Et si vous prenez 3 millions de gens dans le monde sur les 7 milliards que nous sommes, c'est-à-dire un tout petit groupe, on peut dire une maladie, des patients d'une maladie orpheline, 3 millions de gens qui mettraient 1 000 euros pour leur peau par an, vous levez 3 milliards, c'est-à-dire le budget des CNRS pour vous. Donc vous rompez la solidarité qu'elle existe aujourd'hui. Donc la question est très pertinente. Il faut se méfier, c'est une dérive possible de l'appropriation des techniques de génétique en termes de diagnostic qui risque d'aboutir à ce genre d'errement, et les États feront bien d'y faire très attention, ils n'y sont pas préparés.
Sur ce point, Didier Houssin, je pense que vous voulez réagir, et puis peut-être aussi, parce que je ne veux pas qu'on oublie la question de nos amis de Bordeaux sur... dans la situation actuelle, sur les risques d'éclatement et de déshumanisation. Voilà.
Ah non, alors je vais répondre à Bordeaux. Bonjour Bordeaux. un petit coup de... Voilà. Quand même, parce qu'on parle et il est bon de s'alimenter aussi. Juste pour vous...
on y va.
Non. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que vous vouliez que je réponde exactement à quoi? La question.
Voilà. Allez, relisez la question comme ça et on prend le temps de l'écouter.
Dans l'hypothèse d'une amplification des acteurs...
Ah oui, ça y est. Oui, alors...
Attendez, on va la réécouter tranquillement, comme ça sera bien dans l'oreille de
Je répète
tout le monde.
La question de Bordeaux, donc. Dans l'hypothèse d'une multiplication des acteurs ou d'une séparation entre celui qui ordonne le geste et celui qui l'exécute, ce que vous avez évoqué, professeur, tout à l'heure, n'y a-t-il pas un risque d'éclatement et de déshumanisation pour l'expérience du malade?
Écoutez, on en a déjà des exemples, notamment à l'hôpital où on travaille quand même souvent en équipe, et ce n'est pas forcément celui qui a vu le malade qui va l'opérer. Dans mon service, nous sommes passés à un stade presque ultime de collaboration, ce qui demande beaucoup d'énergie entre nous pour être au courant de ce qui se dit, ce qui demande de parler le même langage, sinon le malade effectivement a des avis qui lui font faire le yo-yo, parce qu'un malade est toujours à l'écoute de ce que va dire chacun pour essayer de comprendre sa problématique, et il est très à l'affût des distorsions entre les acteurs. Ça s'apprend. Et bien sûr que la responsabilité, elle aussi, sera systémique. Donc on est en train de passer, et ça c'est un des gros bouleversements qui choque beaucoup de mes confrères, on est en train de passer d'un monde de rapport personnel pur à responsabilité unique, un monde multimodal à responsabilité systémique avec plusieurs acteurs qui agissent. Mais je crois que c'est mieux, car globalement, c'est comme ça que la prise en charge sera plus efficace. Vous savez que aujourd'hui, on vous dit que les jeunes chirurgiens savent moins faire les gestes, comme on les avait appris avec Didier Houssin, des gestes d'urgence épouvantables, avec 2-3 bouts de ficelle, on arrivait à s'en sortir d'affaire. Aujourd'hui, ils sont très robotiques, petite chirurgie Nintendo impeccable. Oui, alors effectivement, peut-être, et on voit bien que grâce à ces méthodes de plus en plus organisées, grâce à l'apprentissage sur les mannequins de simulation, grâce à tout ça, on augmente globalement le niveau de sécurité et de qualité, au prix parfois de morts illégitimes, de malades qu'on ne saurait peut-être pas sortir d'affaires aujourd'hui, qu'on aurait sorti il y a 15 ou 20 ans. Mais globalement, la qualité s'améliore quand même grâce au caractère systémique de la prise en charge. Le médecin ne peut plus faire tout seul. Et le malade le sent quand il est pris dans un service où les acteurs parlent le même langage et s'entendent. Au contraire, ça le rassure. Parce que de lui dire, vous savez, je ne passerai pas demain vous voir parce que j'ai opéré toute la nuit, ou je vais être amené à avoir une urgence, très bien docteur, vous avez raison. Et en mieux vaut voir un médecin heureux et pas trop fatigué qu'un médecin malheureux et avec les yeux qui tombent.
Merci Didier Houssin, vous avez sûrement plusieurs choses à nous dire sur tous ces points.
Ben écoutez, non, moi je répondrai simplement sur la question des aspects financiers. Bon, l'impression que j'ai, c'est qu'on a la chance en France d'avoir ce système de l'assurance maladie. Je crois que c'est vraiment une chance considérable si on regarde le monde entier. Il y a beaucoup de pays où le rêve, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif d'assurance maladie. En Chine, c'est ce qu'ils essayent de faire. Aux États-Unis, ils essayent d'y parvenir également avec beaucoup de difficultés. Donc je crois qu'on a là un acquis absolument considérable qui, de mon point de vue en termes de santé publique, est également un atout très important, puisque ça permet quand même de mettre en œuvre des actions thérapeutiques lourdes, y compris pour des gens qui, effectivement, n'ont aucune ressource financière et qui, autrement, n'auraient aucune possibilité d'y accéder. Si vous avez une leucémie ou si vous avez besoin de vous faire une grosse intervention chirurgicale, c'est impossible, vous ne pouvez pas payer ça de votre poche, c'est plus possible. Donc je crois qu'il faut tout faire pour préserver absolument l'assurance maladie. Moi, je me souviens de la campagne il y a quelques années sur la baleine. C'était une image tout à fait bien trouvée, cette baleine, parce qu'il fallait effectivement la préserver. Alors, elle est aujourd'hui sous tension, il y a un déficit. Donc, je crois que tout ce qui pourra être fait, y compris par des aménagements, et y compris les aménagements que vous dites, qui sont évidemment pas idéaux, mais on sait bien qu'on est actuellement dans une crise grave, il faut trouver des solutions pour préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est que malgré tout, l'accès aux soins en cas de maladie sérieuse, la prise en charge de soins lourds et difficiles soit assurée pour tout le monde, gratuitement. Également aussi qu'on puisse garantir l'accès à la prévention. Par exemple, le fait qu'on puisse gratuitement avoir une vaccination contre la grippe quand on a plus de 65 ans, un dépistage du cancer du sein, etc. Je pense que ça, c'est des actions absolument essentielles en termes de santé, et ça, il faut absolument le préserver. Alors qu'en revanche, on soit amené éventuellement à contribuer un petit peu pour des actions médicales, je dirais, de deuxième. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais elles sont moins vitales. Bon, ben, je pense que c'est des aménagements auxquels on va devoir... De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est concernant le principe de précaution. Parce que malgré tout, je pense qu'il faut bien replacer le principe de précaution dans ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire, le principe de précaution, même s'il y a eu des glissements dans ce sens, n'a pas véritablement sa place en médecine. C'est au départ une notion qui est essentiellement tournée vers la décision publique face à des problèmes environnementaux, qui a glissé, c'est vrai, vers des considérations de santé publique, parce qu'immanquablement, les problèmes environnementaux conduisent à des interrogations en termes de santé publique. Mais je pense que tous les transferts qui ont pu être faits ou toutes les analogies qui ont pu être faites dans la pratique médicale, à mon avis, n'ont pas lieu d'être. Il y a en médecine, évidemment, une question de responsabilité. Il y a des décisions qui peuvent être extrêmement difficiles, où il faut savoir peser les avantages et les inconvénients, mais je crois qu'on n'est pas dans la situation du principe de précaution. En tout cas, les médecins devraient absolument s'interdire de faire référence à cette notion.
Juste un mot. Et on reprendra quelques questions. Oui.
Juste pour vous donner un exemple de la différence qu'il y a entre nous et les anglo-saxons, notamment les Anglais, qui sont des gens beaucoup plus froids vis-à-vis du financement. Ils ont créé un système d'évaluation du coût et de l'efficacité des traitements, et ils l'utilisent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils savent que, par exemple, pour un cancer de la prostate, disons, ça coûte 32 000 euros. Ils savent que la guérison d'un infarctus, c'est 7 000 euros. Vous savez bien que nos finances, quel que soit le pays, ne sont pas illimitées. Vous faites quoi ? Vous traitez un cancer de la prostate ou vous traitez 5 infarctus ? Voilà la vraie question qui va se poser demain. Il faudra la résoudre. Hein, ce n'est pas du baratin. L'argent n'est pas infini. Et donc, on va être amené à être confronté à ce genre de problématiques dans nos pays développés. Il faut bien le savoir. Il faut y être préparé. Est-ce que je soigne un cancer de la prostate ou est-ce qu'avec le même prix, avec le même argent, je soigne et je guéris 5 infarctus ? Que fait-on en France actuellement ? Vous êtes dans une région que je connais bien où il y a un CHU qui reçoit les infarctus. Moyenne d'âge, 52 ans. Le CHU, et ce n'est pas une critique, sélectionne les malades. Parce que sa réanimation, et son unité de soins intensifs cardiaques n'est pas extensible. Donc, quand les appels des SAMU arrivent, il dit, écoute, quel âge, quelle comorbidité, et il prend ceux qui sont les plus jeunes. On ne peut pas le reprocher, c'est comme ça. Mais on va laisser mourir les petits vieux dans des pseudo-réas de petits hôpitaux, pas locaux, mais petits hôpitaux généraux, hein, pour faire semblant, alors qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc, le latin ne sait pas dire stop. L'anglo-saxon le fait, mais nous serons amenés, nous, à réfléchir à cela très, très, très rapidement.
Merci. On va reprendre quelques questions. Il y en avait plusieurs questions par ici. Voilà. Si vous pouvez lever la main, ceux qui avaient des questions. Voilà.
Bonsoir.
J'ai entendu sur la radio qu'il y aurait bientôt le e-santé, c'est-à-dire des docteurs qui seraient des télésopérateurs et nous diagnostiqueraient plus rapidement et ça coûterait moins cher. Alors je me pose des questions quant à la... Voilà. Quand, exactement ce que c'est que cette nouvelle médecine. Voilà.
Bien, merci. Bien, merci. On va reprendre, voilà, on fait revenir par là. Levez bien la main. Levez bien la main. Voilà. Il y a les deux questions. Voilà. D'abord mademoiselle, et puis ensuite, après, devant. Voilà.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, Guy Valencien, que la médecine n'était pas assez chère en France. Concrètement, comment vous vous placez par rapport au dépassement d'honoraires? Qu'est-ce que vous en
alors,
pensez?
Attendez.
Quel risque?
Je vous promets que vous avez...
Et quelles conséquences sur éventuellement les départs des médecins à l'étranger pour cause d'intérêts plus importants à l'étranger qu'en France, au niveau de la rémunération?
Voilà. Merci. Et le micro va juste devant.
Bonsoir. Je voulais poser une question sur la place de la télémédecine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà. Télémédecine, on retrouve un petit peu télésanté. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Alors, vous étiez prêt?
Non, sur les dépassements, on peut crever l'abcès. Je ne suis pas dans le système libéral. Je suis un chirurgien qui exerce dans un établissement mutualiste. Je suis salarié, donc je peux le dire avec toute franchise. On a fait une espèce on a monté en épingle une histoire incroyable. Je connais très bien le tissu chirurgical libéral français. Les chirurgiens, notamment en province, assurent entre 20 et 30, voire 40 % de leurs actes aux tarifs opposables, parce qu'ils savent. Ils savent qui est qui dans la ville plus petite et ils ne sont pas là à demander des tarifs exorbitants. Donc il y a une donnée politique parce qu'il avait été dit qu'il fallait. N'empêche que quand on voit le résultat de ce qui se passe, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'avenant, le fameux avenant 8 qui doit organiser le business, ne fait que reprendre ce qui est la pratique en général. Donc peut-être qu'à Paris, il y a quelques chirurgiens, Lyon et éventuellement Marseille, qui refusent de prendre en main des malades au secteur opposable, mais c'est l'exception de l'exception. Et quand on regarde sur les 23 000 médecins libéraux qui sont au secteur 2, il y a à peu près 1500 qui ont des honoraires qui sont nettement plus élevés. Donc on a fait un barnum incroyable d'une chose qui se réglait en province, parce qu'on a fait croire aux gens que quand le docteur Intel, chirurgien orthopédique de Montluçon, était au secteur 2, je ne pouvais pas aller le voir parce qu'il allait me demander un dépassement. C'est faux. Ils le savaient. Les urgences étaient prises en charge au tarif opposable. Et bien souvent, les chirurgiens, connaissant le tissu local, socio-économique, savaient très bien avoir les tarifs qu'il fallait. Donc on a fait c'est une mauvaise histoire. Et je pense que le gouvernement, pour l'instant, ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et à mon avis, ça n'ira pas très loin. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les élections se rapprochent. Et comme le disait Didier Houssin, le corps médical est encore un corps influent politiquement.
Didier Houssin, sur ce point peut-être, et éventuellement sur la question de l'e-santé, la télémédecine.
Je vais peut-être répondre sur ce sujet-là. En gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique médicale est, on peut dire, bouleversée par le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ça prend une dimension même absolument spectaculaire. Pour donner quelques exemples, bon, il y a déjà ce que disait tout à l'heure Guy Valencien sur l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'effectivement, bien souvent aujourd'hui, un malade a été regardé sur Internet, sur des sites d'information, et il arrive déjà effectivement avec une certaine information. Donc ça, c'est une donnée tout à fait nouvelle. La deuxième aspect, c'est que, au même titre que, par exemple, on va voir apparaître probablement des pharmacies qui vont pouvoir être des pharmacies en ligne, on pourra aller acheter son médicament sur Internet dans un cadre qui sera, non pas acheter un médicament sur Internet, mais acheter un médicament dans une pharmacie qui aura un site Internet, ce qui est quelque chose de complètement différent. Bon, voilà des choses qui vont certainement bouleverser la pratique médicale et les pratiques de santé. Alors, il y a un autre aspect qui est un aspect un petit peu différent, qui est celui dont vous avez entendu parler, c'est tout ce qui tourne autour du dossier médical, tout ce qui pourrait permettre effectivement de faire en sorte que que le médecin ait à sa disposition plus facilement le dossier du malade, qu'il puisse le transférer à un collègue s'il a besoin de l'adresser pour un autre problème de santé. Bon, on a bien vu toutes les difficultés qui ont été générées par cette question, parce que le point de vue des médecins, le point de vue des malades n'était pas le même, et puis il y a des problèmes techniques qui se posent et qui sont des problèmes compliqués. Enfin, concernant la télémédecine, là, je dirais, c'est plutôt l'utilisation des techniques d'information et de communication pour la réalisation de certaines activités de soins, par exemple. Bon, ben, les exemples qu'on peut évoquer, il y en a une que Guy Valencien a évoquée, c'est finalement dans certains territoires difficiles d'accès ou sur des grandes distances, comment faire en sorte qu'on garde un contact. Il y a au Canada, effectivement, des services de dialyse où le médecin, il est à 1000 km et il pilote, grâce à une infirmière qui est sur place, la séance de dialyse qui se fait dans un lieu tout à fait éloigné. Bon, moi, j'ai connu aussi un collègue qui était un radiologue et qui, en fait, lui, vivait en Australie. Et il interprétait les radios la nuit de Houston Medical Center, c'est-à-dire qu'en fait, le service de garde de l'hôpital de Houston faisait l'économie d'un radiologue de garde en envoyant les images en Australie qui, du fait du décalage d'horaire, étaient lues dans la journée par un médecin qui faisait ça dans le cadre de son travail, je dirais, de journée normale. Donc voilà un exemple également d'utilisation de la télémédecine de façon tout à... On pourrait très bien imaginer des systèmes comme ça avec la Nouvelle-Calédonie pour la France. Il y a également un autre exemple intéressant, c'est les diabétologues qui... vous savez qu'en matière de diabète, il y a ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire une maladie de l'œil qui est une conséquence du diabète. Et c'est vrai qu'il y a un système qui avait été mis en place à Paris, qui existe d'ailleurs toujours, où en gros les ophtalmologistes font, je dirais, un fond d'œil, un examen du fond d'œil, et puis ils font une espèce de photographie ou un enregistrement vidéo, et l'image est envoyée à un spécialiste qui, lui, toute la journée, interprète et de façon extrêmement experte toutes les images qui lui sont adressées par télémédecine. Donc, il y a tout eu, et ça ne sont que quelques exemples, mais on peut bien sûr en identifier beaucoup d'autres. Il est sûr que c'est l'utilisation des techniques d'information et de communication va bouleverse déjà et va bouleverser les pratiques en matière de santé. Ça, c'est absolument certain. Elle le fait déjà aujourd'hui.
Merci. On va prendre une toute dernière question avant de terminer notre soirée. Voilà. Si, alors, peut-être quelqu'un qui n'a pas posé encore de questions. Monsieur, oui, n'hésitez pas à lever la main.
Bonsoir, je suis médecin et je travaille à la fois en exercice libéral, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et dans une grande entreprise, dans le service médical d'une grande entreprise de transport parisien, pour ne pas la nommer. Et j'ai l'impression d'être confronté de plus en plus, j'exerce à peu près de la même manière dans ces trois domaines, à un espèce de glissement qui fait que notre système de service public, qui est un système de solidarité, ce qui est une chose essentielle et qui est bonne, et petit à petit, je me heurte à des demandes qui sont plus des systèmes de redistribution des richesses, c'est-à-dire que ceux qui ont droit à notre système de sécurité sociale estiment que tout doit être remboursé. Est-ce qu'une des solutions pour affronter les problèmes qu'on rencontre ne serait pas de mieux qualifier ce qui relève de la médecine, qui doit être remboursé à 100% quoi qu'il arrive, ce qui relève de problèmes de santé. Bon, l'OMS nous dit que la santé est un état de bien-être physique, psychique et social, donc ça va très loin, mais peut-être que tout n'est pas à prendre en charge complètement, et puis ce qui ne relève pas du tout de la médecine, et qu'on continue à nous demander de rembourser.
Merci beaucoup. Guy Valencien.
Oui, alors, vous avez vu le film Cisco de Michael Moore? Eh bien, vous avez la réponse avec le couple de retraités américains qui a une petite retraite, qui a travaillé jusqu'à 70 ans et qui est à la retraite, avec une petite retraite qui voit le généraliste qui veut prescrire un scanner. Et lui et elle disent, docteur, est-ce vraiment nécessaire? Parce qu'on va le payer. Et un scanner, là-bas, ce n'est pas 80 euros, c'est 500, 600, 700 euros. Deuxième chose, le couple français interviewé dans le film. Cadre moyen, très bien, écran plat, petite maison, deux enfants. Question à la femme, qu'est-ce qui coûte cher en France? Le poisson. Voilà. Eh bien, vous êtes là-dedans. Donc, c'est vrai que nous dépensons beaucoup, puisqu'en termes de nous sommes à 11,5% du produit intérieur brut. L'Amérique s'envole à des 17-18. Donc, nous sommes un des pays au monde qui dépensent le plus. Mais la partie praticienne, je veux dire, les honoraires ou les salaires des médecins ne sont pas chers dans ce pays, c'est vrai. Ils sont pas chers. Donc on pourrait faire des efforts sur un tas d'autres domaines, je pense, ou retrouver les milliards nécessaires pour éviter. Alors c'est facile, on fait du, il n'y a qu'à faucon avec ça, mais on s'aperçoit qu'il nous manque de vertu. Et vous le dites bien, le système a dévié peu à peu, chacun se sert. Vous savez que l'absentéisme à l'hôpital, ce n'est pas du tout ce qu'a dit Madame Lebranchu. J'ai eu les chiffres, je les connaissais, mais je me les ai fait confirmer. Ce n'est pas 3,5% avec l'histoire de la carence, du jour de carence. C'est 11% à l'hôpital, avec des pics à 30% d'absentéisme. Dans une grande ville de France, au moment de la chasse, certaines catégories sont totalement absentes. Totalement absentes. Donc, voilà. Et ça, ce n'est pas citoyen, ce n'est pas vertueux.
Merci Didier Houssin, ça sera le mot de la fin.
Ben écoutez, merci, non mais je répondrai à votre question. Je crois que c'est effectivement ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle la définition du panier des soins qui doivent être pris en charge. Bon, c'est une définition qui est difficile parce que malgré tout, où tracer les frontières, comment les tracer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, surtout lorsque l'on considère que ben, des actions qui peuvent paraître modestes de prévention sont extrêmement importantes en matière de santé. Donc il ne faudrait pas que finalement, en voulant réduire le panier de soins aux actes les plus lourds et les plus coûteux, eh bien, on ne prête plus attention à la gratuité d'actes essentiels en matière de prévention, que ce soit des vaccinations, des dépistages, etc. Vous voyez, des choses qui sont malgré tout très importantes pour la santé publique.
Voilà, eh bien, je voudrais remercier en votre nom nos deux invités, Didier Houssin et Guy Valencien. Qui nous ont aidés, vraiment, je crois, à prendre la mesure des évolutions en cours, des changements très profonds à différents niveaux et sur lesquels il va falloir eh bien, que nous réfléchissions en société et il va falloir nous situer. On aura sûrement l'occasion de revenir en partenariat avec le département biomédical sur ces questions importantes. Oui. Merci en tout cas de nous avoir éclairés ce soir. Je vous rappelle notre prochaine soirée d'éthique le mardi 2 avril prochain sur la contribution spécifique de l'enseignement catholique pour le devenir de l'école en France. Vous trouverez à la sortie, comme d'habitude, des urnes où vous pourrez contribuer aux frais de cette soirée. Merci de votre fidélité et bonne soirée. Et ne prenez pas froid.
Et ne glissez pas.
Ne glissez pas, parce que les urgences...
N'utilisez pas les urgences, ne glissez pas.